Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. Il est 14h18, nous sommes toujours en direct, vous êtes sur Immo et sur Territoria. On est ravis d'être avec vous pour cette édition 2024 du Salon Immobilier Bas Carbone. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on fait le tour de la planète immobilière, on évalue et on cherche les bonnes pratiques. Voilà, on va y arriver, c'est bon. Merci Théo. Alors justement, je vous le disais, on a rencontré pas mal de monde ce matin. On a beaucoup parlé d'innovation, beaucoup parlé d'originalité. En tout cas, une chose est sûre, c'est un constat qui est partagé par tous, c'est que la fabrique de la ville aujourd'hui, il n'y a plus de débat, on doit nécessairement se transformer, bien évidemment. Alors justement, je ne vais pas bouder mon plaisir, puisqu'elle est déjà venue à quelques reprises sur notre plateau. Elle est directrice prospective pour Bouygues Construction. Virginie, allons-y, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Eh bien, très bien.
Alors, je constate avec beaucoup de plaisir que vous n'avez pas chômé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ce matin, vous faisiez une conférence dans la matinée sur ces thématiques. D'ailleurs, on peut retrouver d'ailleurs, bien sûr, les notes de tendance que vous avez publiées, ville vivante, ville régénérative. J'allais dire que, alors, je ne sais pas qui a trouvé le titre, mais le titre est génial parce que tout est dedans. Ville vivante, c'est une ville qui se régénère. C'est un métabolisme lent, mais c'est un métabolisme vivant. Expliquez-nous
exactement.
Un petit peu.
Les deux sont extrêmement liés. C'est la ville régénérative ou l'urbanisme régénératif. C'est vraiment un changement de paradigme, un changement de posture. C'est concevoir les choses différemment. C'est vrai qu'au fil des siècles, finalement, enfin au fil de l'histoire, l'humanité s'est complètement distanciée de la nature, du vivant au sens large, parce que quand on parle du vivant humain et du vivant non humain. Et finalement, pendant très longtemps, notre rapport au monde a considéré d'un côté les humains, justement, et de l'autre, tout le reste, le sol, l'eau, la biodiversité, la nature. Mais tout ça, on pouvait en disposer un petit peu à notre guise et on le voyait soit sous forme de ressources, soit sous forme de contraintes. Aujourd'hui, on a un constat, évidemment, que notre planète souffre, et en tout cas est altérée de manière significative, hein, puisque 75% de notre planète est altérée de manière significative avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources. Et nous avons dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et donc l'approche régénérative, c'est une solution. C'est une solution d'adaptation qui ne se limite pas à l'atténuation. Et en fait, on s'appuie sur un concept de métabolisme urbain, justement, qui est de considérer la ville comme un organisme vivant. C'est ça l'approche régénérative. Et on doit développer des mécanismes d'autorégulation inspirés de la nature. Et c'est vrai qu'on prend souvent comme exemple le sujet du biomimétisme qui s'inspire de plus de 3,8 milliards d'années en recherche et développement. Et ça, ça peut complètement nous inspirer. Et juste pour finir, il y a vraiment deux points extrêmement importants dans cette approche régénérative. C'est à la fois, comme on le disait, de concevoir des espaces urbains qui soient autonomes et résilients et capables donc de s'auto-entretenir, de s'auto-réguler, voire même de se régénérer eux-mêmes, leurs ressources, pardon. Et il y a un deuxième point qui est extrêmement important, que souvent on évoque un peu moins, c'est l'approche participative. C'est aussi comment justement on implique directement le citoyen dans la conception de leur cadre de vie, dans ce sujet de régénération culturelle et sociale. Donc voilà, on a de nombreux bénéfices avec cette approche, justement, en termes de résilience, de favoriser la biodiversité, puis surtout d'avoir un cadre de vie qui soit aussi beaucoup plus, plus sain
alors,
et vivant.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais vous préciser. Vous avez parlé des 9 limites, et on a passé la 6e. C'est quoi ces limites ?
Le cadre des limites planétaires, en fait, c'est tout ce qui est lié au sujet du dérèglement climatique, de la ressource en eau, le sujet des sols, de la biodiversité. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus de territoires prennent ce cadre-là pour travailler justement sur les vulnérabilités et les ressources de leur territoire. Et en fait, on couple cette démarche des limites planétaires. C'est le Stockholm Resilience Center qui a mis... qui a travaillé sur ce sujet-là.
C'est 9 niveaux qui sont délétères et on est arrivé au 6e.
Et on vient de passer effectivement à la 6e limite et je crois qu'on n'est pas loin de passer...
On est cuit ou...
Eh bien non, justement, c'est pour ça qu'il faut changer de modèle, changer de posture et faire différemment.
Je vous provoque volontairement parce que comme ça éclaire un peu les consciences. Est-ce que justement, sans faire de la méthode Coué, ou d'optimisme forcené, est-ce que c'est réversible?
La pression hydrique,
les problématiques de climat, l'intensité en fait des énergies délétères pour le fonctionnement. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la cohésion entre les organismes vivants, humains, la biodiversité, donc le règne minéral, le règne animal. Une chose qu'on peut dire, c'est que le règne humain a été plutôt fatal au règne animal et fatal au règne minéral. Alors que le minéral, comme l'animal, n'a jamais eu cette velléité de désastre de l'humain, qu'on compare parfois à des nuées de sauterelles qui passent qui pillent finalement les ressources de la planète. Parce qu'une chose qu'on avait dite ce matin, aussi lors d'une conférence que j'ai animée également, c'est la pression hydrique, par exemple, dont on ne soupçonne pas les effets, effectivement, dans le cadre du climat. On parle beaucoup de température, on parle beaucoup d'énergie, et effectivement, l'eau est aussi un problème. Donc, vous, dans
le stress hydrique, oui, c'est un vrai sujet. On a, en France, je crois que c'était l'année dernière ou il y a un an, on avait 1300 communes en France qui étaient sous arrêté préfectoral pour le sujet de l'eau.
Il y a même des préfets aujourd'hui qui ne signent pas les permis de construire si on n'arrive pas à démontrer qu'on arrivera à fournir en eau potable, bien évidemment. Etc. Et se pose la question, effectivement, dans ces morceaux de ville. Quand je vous dis, par exemple, je vous pose cette question, est-ce que c'est réversible? Bien évidemment, ça l'est, mais il y a urgence.
Il y a urgence. Et c'est pour ça que le message principal, c'est évidemment qu'il faut travailler sur le sujet du carbone, mais il faut aussi vraiment travailler en même temps sur le sujet de la ressource et sur le sujet du vivant. Et ça, c'est important de l'intégrer et que ce ne soient pas des sujets qui soient à côté. C'est de les intégrer directement dans les projets en amont. Voilà. Alors, et cette approche régénérative, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir une activité humaine qui soit régénérative et juste. Et donc, on parlait des limites planétaires, mais on le couple aussi avec le modèle, le sujet du donut de Kate Raworth, qui est une économiste américaine. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver justement, à la fois sans dépasser le plafond écologique, mais un épanouissement des sociétés tout en respectant ces limites planétaires.
Concrètement. Parce que, alors, moi, je comprends complètement votre discours. Il y a une vision académique, il y a une vision qui est liée à la recherche, bien évidemment. Des choses que l'on a découvertes, d'ailleurs, c'est que la ville est un organisme vivant. Ce n'était pas si évident dans la gestion purement immobilière. Maintenant qu'on a intégré à l'Europe des règlements comme la taxonomie, maintenant qu'on a intégré des ratios extra-financiers qui permettent de faire ce qu'on appelle de la finance verte ou de la croissance verte, autrement dit, des ratios autres que la finance pour justement calibrer les investissements. Est-ce que vous percevez, vous, dans votre écosystème, qu'on a une profession des fabricants de la ville qui sont acquis à la cause, qui adoptent les best practices, les bonnes pratiques? Est-ce qu'on va aujourd'hui dans le bon sens concrètement? Vous représentez Bouygues Construction, qui est un acteur majeur de la construction, pas uniquement en France, mais dans le reste du monde. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Oui, on voit qu'il y a une mobilisation des acteurs. On parlait tout à l'heure du sujet de l'eau. Voilà, on a toute une action collective, justement, avec une coalition d'acteurs publics et privés sur ce sujet de l'eau pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, quelles sont justement les métriques. On a tous des références en termes de métriques sur le carbone, sur l'énergie. On en a encore très peu sur l'eau. Voilà, qu'est-ce qu'on peut développer justement pour changer un petit peu cette posture. Après, pour prendre l'exemple à l'échelle justement de Bouygues Construction, eh bien, il y a juste une vraie transformation sur ces sujets-là, avec toute une équipe d'ingénierie sur les matériaux biosourcés et géosourcés, avec WeWood qui travaille beaucoup le sujet de la construction bois. Et après, il y a tous les autres sujets de matériaux justement biosourcés. On a aussi justement Elan qui accompagne avec aussi tous ces écologues pour davantage comment on pense le projet. En fait, il faut vraiment penser le projet en coévolution avec ces sujets à la fois du vivant, et aussi ce côté participatif qui est extrêmement important dans les projets en fait à mettre en œuvre.
Vous mettez en place effectivement, vous avez publié, on peut en parler, hein, publié une note de tendance ville vivante, ville régénérative. On peut se procurer sur le blog de Bouygues.
Tout à fait.
Il suffit de taper sur Internet blog
Bouygues Construction, c'est en accès libre. Vous avez la version numérique aujourd'hui en français. Vous avez aussi bien de la théorie que de la pratique.
Alors, changement de paradigme sur effectivement l'urbanisme régénératif. Je vois bien l'approche finalement assez holistique que vous avez sur cette transformation urbaine. Moi, je la qualifie d'une nouvelle forme d'anthropologie urbaine. Une approche régénérative en pratique, parce que vous ne perdez pas de vue que, bien évidemment, la conception théorique ou finalement prospective doit donner lieu à des cas pratiques,
exactement,
à des illustrations pour être extrêmement concret, et ainsi que trouver les modèles économiques, parce que sans modèle économique, ça ne fonctionnera pas. Vous imaginez effectivement des nouveaux leviers qu'on pourra appeler aussi des nouveaux leviers de croissance. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Comment on fait ? Alors, j'aime bien votre philosophie, effectivement, c'est top. On a une philosophie de vie qui fait qu'aujourd'hui, on décilote complètement les usages et on mixe finalement les populations. Donc, il y a des innovations sociales, il y a des innovations environnementales, il y a des nouveaux matériaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez la production hors site, vous avez les ossatures bois, mais il y a aussi le réemploi des matériaux, le travaux sur les remblais, travaux sur de la terre crue, sur... des travaux sur la lumière, sur l'air intérieur comme l'air extérieur. Tout ça a pour but, par exemple, d'aller vers une certaine sobriété, une certaine frugalité en matière d'énergie. Comment on fait pour trouver un modèle économique adapté ? J'explique. Comment on fait pour que ça devienne abordable pour l'usager ? Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a un logement qui est inabordable pour, on l'a vu avec les primo-accédants qui en ont pris plein la tronche ces 18 derniers mois. Alors c'est vrai que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, mais vous êtes confronté, Bouygues Construction, comme tous les autres opérateurs du secteur, à cette réalité. Virginie, est-ce qu'on peut faire coïncider cette nécessaire et impérieuse nécessité de changer, et vous avez raison, de toute façon il n'y a pas photo, on en est tous là, et trouver aussi une raison économique qui puisse faire en sorte que les masses, les populations, y trouvent aussi leur compte. Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vrai que l'énergie et la planète, c'est super. Mais à la fin du mois, ce qui compte aussi pour eux, c'est leur pouvoir d'achat.
C'est le pouvoir d'achat. Et là, on parle d'énergie, mais aussi, on parlait de l'eau tout à l'heure, c'est aussi la ressource en eau qui devra être disponible et où on risque d'avoir des conflits d'usage dans les années à venir sur ce sujet-là. Et ben, en fait, c'est tout le sujet de travailler justement sur des nouveaux modèles, surtout de travailler en synergie. De vraiment remettre la coopération au cœur du sujet entre les acteurs privés, les acteurs publics, le secteur académique pour trouver des nouveaux modèles et des nouveaux modèles économiques. Ça peut être des sujets liés justement à tout ce qui est lié à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc comment on va mettre au centre du sujet la valeur d'usage et pas forcément... travailler sur ce sujet de la valeur d'usage, ça peut être des nouveaux concepts. On parlait d'économie circulaire tout à l'heure. C'est là où on a notre plateforme Cineo qui travaille justement, qui emmène toute la chaîne d'acteurs sur ce sujet de l'économie circulaire. On peut penser des bâtiments, banques de matériaux, réutiliser l'existant. On l'a déjà dit.
C'est ultra vertueux parce que ça réduit les nuisances.
Exactement.
Ça permet d'avoir moins de toupies lorsqu'on fait de l'assemblage hors site, par exemple. C'est tout bête. Mais on divise par deux les problématiques de logistique, de livraison sur chantier. Et réemployer des matériaux qui sont parfois des matériaux nobles, ça a plus que du sens. Quoi.
Ça a beaucoup de sens.
Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Ça. C'est quasi la totalité des chantiers chez vous fonctionnent de cette façon-là.
En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et après, il faut arriver à embarquer toute la filière parce qu'en fonction des implantations où que l'on soit, il n'y a pas toujours une filière. Et comme vous le disiez, on travaille aussi à l'international, donc c'est aussi compliqué. Après, il y a ce sujet-là et puis il y a aussi comment on optimise ou on utilise davantage nos bâtiments. Donc ça, c'est tout le sujet sur l'intensité d'usage.
L'intensité, c'est l'occupation, la façon dont on pense l'occupation,
l'usage.
C'est le
taux d'utilisation, effectivement. Un exemple, les écoles sont en moyenne utilisées en France à peu près 20% de leur temps, parce que finalement, elles ne sont pas utilisées ni le soir, ni le week-end, ni pendant les congés.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et donc, du coup, on peut avoir des associations, on peut très bien ouvrir le sujet. Il y a toute cette démarche avec notamment les cours d'école, les cours oasis, où on va les ouvrir aussi sur son quartier, on va désartificialiser ces cours.
On débitume les cours,
voilà.
On en fait des îlots de fraîcheur.
Voilà, exactement, et qui s'ouvrent sur le quartier
pour
aussi,
pour
les habitants du quartier.
Donc, ils rentreraient dans la cour de l'école.
Mais ça se fait déjà dans plusieurs villes, effectivement, ou le week-end, le soir, notamment en période de canicule.
C'est génial.
Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, finalement ?
Vous avez un gymnase à côté, donc du coup, on peut faire du sport. On peut aller ensuite se rafraîchir dans cet îlot de fraîcheur. Effectivement, il peut y avoir, vous l'avez dit tout à l'heure, des différences quand même de 2 degrés hein, sur des îlots de fraîcheur. C'est même... Donc il n'y a pas photo. Et puis il y a aussi une vision un petit peu kantienne du dispositif, c'est-à-dire que c'est aussi très beau. Parce qu'il n'y a rien de plus sympathique que de voir du vert et de la perspective en face de soi. Ainsi que l'impact que ça a sur la biodiversité, notamment les animaux. Oui. Par exemple, la pollinisation, ça a un effet très positif. C'est incroyable. Moi, j'avais lu un article sur les abeilles en ville. C'est extraordinaire.
Quand on s'intéresse à la vie de l'abeille, on apprend beaucoup de choses. C'est extrêmement intéressant.
Donc finalement, la ville, qui était parfois délétère à cause des humains qui finalement n'ont pas parachevé ce qui aurait pu l'être, aujourd'hui peut-être un allié objectif finalement dans la transformation de ces villes. Donc la ville du 21e siècle, c'est celle-ci.
C'est la ville d'aujourd'hui où justement il faut débitumer, désartificialiser, il faut retrouver. Il y a le concept des villes éponges en
thermique,
Chine.
Il n'y a plus de moteur thermique.
Mais oui, pour le bruit. Le bruit a un impact sur la santé. Il n'y a pas que la pollution, il y a aussi
On l'a vu.
Je ne vais pas faire le lien avec le sujet de la ville, penser la ville à hauteur d'enfant. Ou justement, comment on peut retrouver des villes apaisées, beaucoup plus vivantes, des espaces de sociabilité, des espaces avec plus de nature qui finalement bénéficient à tous en fait.
Vous êtes une amatrice de Saint-Exupéry, hein, à hauteur d'enfant. Vous auriez pu l'appeler Dessine-moi une ville.
Hein. Exactement.
Voilà,
on a choisi Ville Vivante, Ville Régénérative.
Dans le Petit Prince, je constate avec beaucoup de plaisir que votre passion reste intacte, mais rien ne saurait résister aux accents de la passion, justement parce que la ville, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose d'intime, c'est le marqueur social.
La ville vit, respire.
C'est le lieu de l'intime, c'est le lieu de la fabrication des énergies, des projets de vie, comme le logement, qui est le marqueur social. Et effectivement, on a tous besoin de... Et Dieu sait que les conditions actuelles de notre monde nous poussent à vous écouter vraiment beaucoup. Je voudrais juste rappeler quand même qu'en 2020, vous vous rappelez, à 2 endroits de la planète, donc en Arabie Saoudite et au Pakistan, je crois au sud du Pakistan, à 2 endroits pendant, je crois, 3 ou 4 heures, même 4 ou 5 heures, le temps, le climat était impropre à la vie humaine. C'est le rapport entre ce qu'on appelle la chaleur et l'humidité, la TDW. Bon, je ne vais pas reprendre les termes parce que c'est pas moi qui suis le spécialiste, mais j'avais lu cet article dans Science et Vie qui m'avait absolument sidéré. Notre planète peut se rendre hostile à la vie humaine parce que les humains ont fait en sorte que cela arrive. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça prend dans l'opinion. Vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était une affaire de bobos. Entre le vélo du café de Flore et de l'hôtel de ville. Et maintenant, c'est une affaire qui concerne tous. Est-ce que vous avez ce sentiment que tout le monde, du plus petit au plus grand, dans la ruralité, partout en France, partout dans le monde, on a cette prise de conscience qui s'est opérée à cause justement de cette diffusion d'informations sur cette dernière génération acquise à la cause?
Oui, et puis même en dehors de la diffusion de l'information, je crois qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, c'est parce qu'on assiste à beaucoup plus d'événements extrêmes. Et on sait que ces événements climatiques, ils vont être de plus en plus intenses et fréquents. Donc forcément, la sensibilisation aujourd'hui, elle est beaucoup plus présente.
Alors moi, je vous donne un conseil, les amis. C'est de vous procurer, on peut l'avoir gratuitement, je crois.
Tout à fait, c'est en accès.
C'est gratuit, voilà. Ville vivante, ville régénérative. Vous tapez blog construction, vous l'avez en format électronique et on peut aussi l'avoir en format papier. Vous avez un stand d'ailleurs à côté, il est temps d'y aller aussi et de partager avec vous toutes ces idées. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Virginie, allons-y. Je rappelle que vous êtes directrice prospective pour Bouygues Construction. Merci et on vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup d'îlots de fraîcheur dans des cours qui en ont bien besoin. Merci à vous.
Merci beaucoup Sylvain. À très bientôt.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.